Salut Daniel. Alors c'est Daniel Samar. Alors t'as vu, nous, on a réussi à faire libérer Florence sans débourser un centime. C'est ça. La rançon, on connaît pas. Grâce à la force de persuasion de notre gouvernement, on a réussi à convaincre donc les gars de relâcher Florence. Voilà, c'est bien. Marc, c'est bien parce que vu le temps de Patrick, hein, pour payer la rançon, avec le trou de la sécu et les rénovations de l'appartement de Guénard, ça coûte vraiment très cher. Donc c'est bien qu'on se le dise pour les prochains kidnappeurs. Allez, salut Daniel. On nous prend toujours pour les mêmes. Quoi. Ciao.
Laisse pas les gens se contenter de « c'est merveilleux, Florence est libérée ». Bien sûr que c'est merveilleux, mais il faut pas oublier ce qu'il y a dessous, quoi. C'est comme l'autre, là. Serge Julia. C'est un bouffon, ce mec. Quand on sait quel était le projet de Sartre quand il a fondé Libération, et ce qu'il en a fait après la mort de Sartre, et qui nous disait le 1er mars, lorsqu'il y a eu la cassette vidéo là, montrant Florence Aubenas appelant à l'aide, interviewé sur Antenne 2, il disait donc c'est très bien parce qu'elle est vivante, et puis on lui demande pensez-vous qu'elle dit qu'elle souffre, et tout ce qu'il trouve à dire, bien sûr, elle souffre puisqu'elle est vivante. la grande considération philosophique dans un moment qui s'y prêtait peut-être pas. Je veux dire, là, justement, l'urgence, c'était l'état de santé et de vie de Florence Aubenas. C'est pour ça que ça me gonfle, cette histoire.
Florence, les journalistes te disent merci. Tu as super bien redoré leur blason. Ils en avaient besoin. Florence, ils n'ont pas honte. Tu es leur collègue et chose. Le monde du brut, sans moi ni loi, c'est aussi ici. Vérifie ta condition d'humain libre avant de continuer.
C'est Nada de 14e. Je m'en réjouis de la libération de Florence Aubenas et de Hossein Hanoun. Et j'attends que les médias français nous parlent enfin de 24 millions d'Irakiens otages de l'occupation américaine et des prisons d'Abu Ghraib et autres. Où ont entassé des milliers d'Irakiens sans jugement. Merci.
Ici Daniel de Nice. Les journalistes sont extraordinaires. Pendant 2 semaines, ils ont, à quelques exceptions près, culpabilisé les électeurs ayant voté non au projet constitutionnel. Depuis hier, Ils s'auto-congratulent, sans vergogne, en s'appropriant la libération de Florence Aubenas. Tous des héros. Quelle indécence. Je suis content pour Florence, certes, mais arrêtons ce délire qui anesthésie les Français comme la Coupe du Monde 98 l'avait fait. Les Français ont besoin d'autre chose que d'émotions de foire vulgaires et excessives. Daniel.
Eh ben oui, pas mal de messages comme ça pour nous dire Florence lave plus blanc, Florence redore le blason, Sainte Florence renfloue le navire, Sainte Florence sauve le Titanic médiatique. Voilà, ça va quand même plutôt dans ce sens-là, les messages au sujet du retour de Florence Aubenas. Aujourd'hui, nous, on va aller se balader à Marseille avec un drôle d'oiseau qui s'appelle Charlie Bauer. Vous vous souvenez peut-être de Charlie Bauer qui, il y a une quinzaine d'années, avait fait un grand bruit dans le monde de l'édition, mais pas seulement, avec un livre « Fracture d'une vie ». Je dis pas seulement parce que son livre, qui est un long témoignage, simplement de sa vie, une vie entièrement consacrée à l'engagement, à la lutte, et à la lutte qu'il a menée aussi à l'intérieur de la prison, parce que Charlie Bauer s'est fait quand même 25 années de prison. Son bouquin avait eu beaucoup d'écho. Et puis, bon, ben voilà, l'écho est retombé. Peut-être parce que Charlie Bauer n'a pas fait tout ce que les médias attendaient de lui. Si bien que les éditions Agon, à Marseille, le pays de Bauer, a éprouvé le besoin de rééditer ce livre, Fracture d'une vie. Et notre Pascal Pascariello, qui est marseillaise aussi, eh ben, elle s'est baladée avec Charlie Bauer dans cette ville de Marseille. Et voilà, on va passer une heure avec eux. Mieux vaut un jour de lion qu'un siècle de mouton. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la basse, j'y suis, la satisfaction des réunionnais qui pourront continuer de nous écouter, et puis une auditrice qui est quand même, parmi d'autres, heureuse de ce qui s'est passé hier dans la basse, j'y suis.
Pour ceux qui résistent, pour les 14 syndicalistes menacés de révocation par la Poste, à qui l'on applique la double peine administrative et pénale, dans un conflit qui les oppose à la direction de la Poste. Ce conflit dure depuis 3 semaines, bien entendu peu relayé par les médias. Merci à l'avocat Boulanger, partie civile dans l'affaire Papon, qui est venu ce 9 juin soutenir les grévistes. Merci Daniel, ciao. C'est William, Sud PTT, Agence Centre-Tri.
Salut, c'est Séverine de Chalon. J'ai écouté votre message, enfin, votre émission sur l'orgasme, et c'est vraiment fantastique, et je crois qu'il faut en parler, parce que moi, j'ai 30 ans, j'ai eu un orgasme il y a peu de temps, mon premier rapport sexuel était à 15 ans, et je me suis dit, après bien des choses que j'ai pu ressentir, des choses merveilleuses, je me suis dit, mais on n'en parle pas, et on n'en parle pas assez, et pendant 15 ans, j'ai rien ressenti de tout cela, et mon Dieu, si on m'en avait parlé, peut-être que j'aurais pu profiter plus tôt. Mais peu importe, parce que c'est tellement merveilleux qu'après, c'est hors du temps. Et ce qu'on ressent, ça rattrape toutes les années. Voilà, c'était super. Salut.
Bonjour, je viens d'écouter l'émission là, et je me suis vraiment régalé. Ça fait du bien. Hein. Le fait de prendre son pied, là, je crois que je l'ai eu un petit peu. En général, c'est réservé aux femmes, mais moi, je l'ai pris là. Lors du vote contre le référendum, contre la Constitution, du moins européenne. Et je sens que si Chirac se fait virer en 2007, ça va être le père d'Argier également. Allez, bon labour à tout le monde et prenez bien du plaisir en attendant.
Bon, eh ben, c'était de nouveau Saint-Paul de la Réunion. Alors, finalement, bonne nouvelle. Pour l'instant, France Inter est maintenue. Voilà, nous sommes très contents. Les gens se sont quand même beaucoup mobilisés et pour l'instant, nous gardons notre chère France Inter que nous pourrons continuer d'écouter. Voilà. Une belle victoire des auditeurs et des auditrices et ça fait plaisir. Voilà. Bon, et ben, je vous souhaite une très bonne journée à tous et à toutes sous le joli soleil de la Réunion et à bientôt.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Pascal Pascariello et Charlie Bauer, Fracture d'une vie. Flight number 2, arriving
from New York. Putain, c'est marrant ça. Il y a plein de gens. Putain, avant, tu vois, tu pouvais rentrer, là, maintenant c'est thème, hein. Et on est devant les beaux maîtres, voilà. Il fait froid, on est à l'ombre, les beaux maîtres sont au soleil, quoi. Bon. Alors, comme vous le voyez, rien ne ressemble plus à une prison qu'une autre prison. Et là, cette prison-là, bon, ben, elle n'a pas changé depuis toujours, je crois. Ils ont rajouté des murs. En face à la porte de la prison, il y avait un bar qui s'appelait Bonjour l'humour, qui s'appelait Ici mieux qu'en face. Là, maintenant, il y a une espèce de bâtiment pour les surveillants. Comme ça, ils sont à demeure, c'est bien, ils n'ont qu'à traverser la rue pour aller bosser. C'est le prolétariat pénitentiaire, quoi. Hein?
Le premier geste qu'on fait quand vous êtes sorti,
c'est regarder loin. Regarder loin. Pendant des années, le regard est bloqué à quelques mètres. Et là, on peut se permettre de regarder loin, d'avoir des sons différents. Comme là, vous voyez, là devant les baumettes. Bon, on voit tournoyer les mouettes. Il y a les types là qui sont derrière les cellules. Ils ne perçoivent pas les sons comme nous les percevons. Même le son de sa voix, il est différent. Il est renvoyé différemment par le fait du béton, des bétons armés en l'occurrence. Et donc, il y a une différence quand même, même au niveau du son. Moi, je l'ai perçu ça très violemment. Le son, il est renvoyé dans la cellule comme une balle de ping-pong, vous voyez. Même lorsqu'il n'y a pas de son, même les pensées résonnent. Et bien des fois, cet enfermement a un effet boomerang. Hein. On croit s'en échapper, il vous revient dans la gueule comme un boomerang. Il faut avoir assez de force pour savoir bien lancer le boomerang et à faire qu'il touche sa cible et qu'il ne vous revienne pas dans la gueule. Quoi. Ça, c'est un effet de liberté, c'est un effet d'évasion, c'est un effet réussi de la belle des belles.
C'est vrai, on aurait pu intituler cette heure « La belle des belles ». Ça a été l'idée fixe de Charlie Bauer toute sa vie durant, puis ça continue d'être son horizon. « La belle des belles ». C'est beau, hein ?« La belle des belles », le rebelle de « La belle des belles ». Il y a évidemment tout un romanesque, tout un romantisme et toute une séduction pour envers le Zorro, envers le Robin des Bois, envers le seul contre tous, l'homme qu'on n'attrape jamais, l'homme qui s'évade. C'est vrai que ça nous fascine et que ça nous plaît. Ça nous plaît. De quoi est faite cette fascination? Est-ce que c'est pas la fascination qui peut être quelque part dans l'esprit de l'eunuque qui regarde un étalon et qui tout d'un coup, à la vue de l'étalon, se réveille sans savoir ce à quoi ça correspond? Il est possible que le succès du bouquin de Bauer, publié, je le disais, il y a une quinzaine d'années, et republié ces temps-ci, tout récemment, Fracture d'une vie, soit de cette nature-là. De nature, là, mais pas de cette culture-là. C'est autre chose dont Charlie Bauer parle dans ce bouquin, qui est entièrement fait de sa vie. C'est sa vie, la matière première de ce livre. Une vie entièrement de lutte. Il doit confondre ces deux mots, ce garçon. Lutte et vie, pour lui, c'est exactement la même chose. Et il va nous raconter comment et pourquoi. Et Bauer, c'est intéressant de l'écouter aujourd'hui. Si on demandait aujourd'hui à un jeune garçon ou à une jeune fille, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, il dirait victime. Quand Charlie Bauer était petit, on disait je voudrais être résistant. C'est peut-être à ça qu'on verra le basculement du temps, comment les choses ont évolué. Et il se peut bien que notre intention, notre arrière-pensée, en rencontrant Bauer et en vous le faisant découvrir ou redécouvrir, c'est celle-ci, celle qu'effectivement, c'est pas mal de considérer que les deux mots se superposent exactement, la vie et la lutte. C'est jusqu'à 18h sur Inter avec Pascal Le Pascariello et Charlie Bauer, Fracture d'une vie.
Quand j'ai ouvert mes yeux, tout était sombre dans la chambre. J'entendais quelque part comme une sonnerie. J'ai voulu bouger, aïe la douleur dans l'épaule droite. Tout à coup me coupa le souffle. Une peur affreuse m'envahit et mon corps se couvrit de sueur. Toute ma mémoire me revint, le hold-up, la fuite, les copains qui se font descendre. Je suis blessé mais je fonce et j'ai le fric. Je glissais la main sous l'oreiller, la mallette pleine de billets était là bien sage. 200 briques, somme toute ça pouvait aller. Mon esprit se mit à cavaler sur était ma planque chez Suzy. Et bientôt à nous de la belle vie. Les palaces, le soleil, la mer bleue, toute la vie. Une radio s'est mise à déverser, un air de piano a tout cassé. Je connaissais ce truc, c'était le blue rondo à la tourtête. Groubette jouait comme un fou, aussi vite que moi mettant les bouts. Soudain la sonnerie du téléphone, mon cœur fit un bond, je pris le récepteur. Allô, c'est Suzy, ça fait deux fois que j'appelle. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un garde-flic au coin de la rue. Je restais sans voix, j'étais foutu. Il faut que tu files, me dit-elle. Descends pas sur le toit, par les doigts. Bon Dieu.
Encore les flics, vite le flic. Et puis l'escalier de service. 4 à 4, 1, va, 6.
S'était ouvert sur les étoiles et me revoilà faisant la malle parmi les antennes de télé. Ce pognon, je ne l'aurais pas volé 30 mètres plus bas dans la rue du Colise. C'était la cohue. J'en peux plus. J'ai couru comme dans un rêve le long des cheminées. Ah, le temps, la mallette à la main, je vacillais. Sur un toit s'amorçait un escalier d'incendie. S'enfonçant le couteau pendu, le coup, je descendis jusqu'en bas. Et me voici à trois pas d'une sortie sur la rue. Quelle rue, je ne le savais plus, mais tant pis, je suis sorti. Et tout de suite, je les ai vus, 4 flics au bout de la rue. Pas de panique, j'ai reconnu le bar du living, j'y suis entré. La boîte était pleine comme un œuf, 2 ou 3 jazzmen faisaient le bœuf. Je brûlais de fièvre, je voyais les murs, les bouteilles qui tournaient. Puis quelqu'un m'a saisi par le bras, je me retournais, Suzy était là toute pâle, elle me souriait, de nouveau le soleil a brillé. Dans un souffle, elle m'a dit, viens, j'ai la voiture tout près d'ici, nous sommes sortis, mais devant moi, un poulet a crié, ne bouge pas, avec la mallette, je l'ai frappé, alors le coup de feu a claqué, me clouant sur place. Oh Suzy, t'en fais pas. Je te suis, on y va. Les palaces, le soleil, la mer bleue, toute la vie.
Je suis sorti de prison en 1988. Ça va faire 17 ans. Je suis sorti le 18 juin, non pas à l'appel du 18 juin, aussi bien à l'appel gaulien que l'appel du pétard, quoi, hein, dans les années 70, le 18 juin, joint. Là, mon nom, c'était le 18 juin, le jour de ma libération. Tiens, on va peut-être grimper cette route, là.
Et ça faisait combien de temps que vous étiez en prison?
Alors ça s'est effectué en deux fois, à savoir une première fois arrêtée en 1962. Vous voyez, je porte bien mon âge. Hein. 62, j'avais 20 ans. Ben, arrêté, condamné à 20 ans de réclusion. Sorti en 77. Réincarcéré. Dans le cadre de l'affaire Mesrine, en 1979, j'ai été arrêté 2 heures après l'exécution de mon ami. Et j'ai effectué encore 10 ans, ce qui fait 25 ans. 25 ans, un quart de siècle. Voilà.
C'était pourquoi la première incarcération, les 20 ans?
Eh bien, bande organisée, avec ses conséquences aggravantes, association de malfaiteurs, entreprise susceptible de déstabiliser l'État. Et nous opérions l'expropriation, la reprise directe de la marchandise et une redistribution de cette marchandise dans les quartiers nord de Marseille.
C'était donc, quoi comme marchandise?
Oh, de la bouffe, des fringues, des trucs très terre à terre. C'est-à-dire tout ce qui nous manquait. Et même au-delà, ne déconnons pas, on volait. On faisait du vol une pratique politique. On attaquait les trains, par exemple. On dévalisait les entrepôts, les magasins. Magasins de luxe, j'entends. On allait dans les quartiers riches de Marseille. Ou d'ailleurs, parce qu'on sévissait dans tout le sud-est. Et puis, on expropriait la marchandise. De même que la banque, bon, c'était selon, non pas l'inspiration, mais selon le travail que nous avions décidé. On était les staccanovistes du vol, de l'expropriation. On volait tous les jours. Tous les jours, on partait en opération. On était une vingtaine d'individus, ce qu'on appelle une bande organisée, quoi, voilà. Et j'étais condamné à l'âge de 20 ans à 20 ans de réclusion criminelle.
Combien d'évasions, à peu près, combien de tentatives d'évasion?
Oh, 7 ou 8. J'arrêtais pas. J'étais le Stakhanovich de l'évasion, étant donné que j'en faisais, non pas un fixing, mais il y a eu un, en l'occurrence, c'était même un collègue, tiens. Il m'a dit, quand même, tu as eu une véritable obsession dans l'évasion. J'ai dit, toi, c'est une obsession dans la connerie, c'est quelque chose de pas croyable. L'évasion, c'était pour moi un moyen de revendication. Il y a eu des fois, je me suis inscrit dans des plans d'évasion, sachant qu'ils allaient échouer. On va dire, mais t'es mazo, alors mais pourquoi t'es celui-là quand même fait? Parce que c'était une démarche politique. C'était pour, parfois, faire la démonstration de la stupidité de l'appareil. J'avais besoin, non pas de me prouver, mais de me faire et de faire aussi la démonstration de ce que j'étais en vie.
Il y a eu combien de prisons aussi? Parce que après les Baumettes, il y a eu Fleury.
Ah, mais j'ai fait 14 prisons. Parce que ils voulaient pas me garder. Quand j'arrivais dans ma prison, le chef d'établissement se dépêchait de m'expédier ailleurs pour dire, prends-toi, lui, là, tu vois. Voilà. C'est pourquoi j'ai fait 9 ans de quartier de haute sécurité, de QHS, d'ailleurs. Parce que j'étais un détenu, dangereux. Selon l'appellation de la pénitentiaire et des forces de répression, dangereux et représentant une dangerosité potentielle ou permanente. Et moi, le potentiel était évacué, il restait donc le permanent. Effectivement, sans me la jouer le grand méchant loup, que je ne suis pas d'ailleurs, mais je représentais pour l'appareil une dangerosité permanente, c'est vrai.
Si on tend l'oreille, on les entend, ceux des Baumettes, ceux qui sont aux fenêtres et qui hurlent, qui crient. Et c'est toujours terrible, ce son des détenus qui crient à l'attention de ceux qui sont à l'extérieur. On les a entendus en Avignon, si vous vous souvenez. On les a entendus à Saint-Pétersbourg, on les a entendus un peu partout. Et ben là-haut, on les entend aussi au Baumettes. Et ben voilà, c'est vite dit comme ça, 25 ans de prison. Mais évidemment, c'est pas rien, mais ce qui est particulier dans le cas de Charlie Bauer, c'est cet entêtement à lutter, à se sortir de là, sans sortir de là. Pour lui, la belle, c'est vraiment c'est pas seulement sortir de la prison, c'est sortir de toutes les prisons. La fameuse formule vivre sans entrave, hein, la fameuse formule de 68. Lui, c'était vraiment, c'est ce qu'il a fait. Mais c'est les entraves aussi bien, évidemment, d'abord physique, la prison, mais c'est aussi toutes les entraves, toutes celles qu'on a soi-même, dans sa vie, dans sa tête, et qu'on se met aussi en permanence dans sa tête. Tel est Charlie Bauer. Ainsi parle Charlie.
J'ai connu des situations délirantes, l'évasion, la tentative d'évasion de Clairvaux, par exemple, dont je pourrais vous parler. À savoir, nous étions évadés par les égouts, nous étions pratiquement à l'extérieur. Arrivé au bout de l'égout, il y avait un mur avec des trous, hein, un mur de béton d'un mètre d'épaisseur, avec des trous qu'on appelait le nid d'abeille. Par où s'écoulait l'eau et le reste, puisque c'était des égouts, hein, bon. Et nous, notre plan, c'était de creuser, arriver au bout du tunnel, face à ce mur, le blocos en l'occurrence, donc, creuser le tunnel, et puis sortir, nous étions dehors. Voilà, seulement on a été dénoncé par un détenu, justement. On a été dénoncé, et lors d'une tentative d'évasion à Clairvaux, ils ont noyé les égouts.
Alors comment se fait-il que je vous parle aujourd'hui devant ce micro? C'est que finalement, il y en a un des matons sur les 80 qui était là à nous attendre, qui est parti en courant fermer les vannes, parce que nous avions de l'eau jusqu'à ras du menton et même un peu plus haut. Et aussi parce que finalement, bien que ne sachant pas l'épaisseur de terre qu'il y avait au-dessus du tunnel, on allait percer le trou et donc... Voilà, le ciel étoilé et les étoiles des uniformes. Et là, ils étaient 80 matons avec des manches de pioche, des morceaux de câbles électriques, des câbles électriques de haute tension, des fusils. Ils se sont mis sur deux haies comme ça. Ça faisait environ une vingtaine de mètres, une trentaine de mètres. Et ils nous ont passé au milieu de ces deux haies, enchaînés, les chaînes aux mains, les chaînes aux pieds, enchaînés. Passer à l'horizontale, parce que bon, Domaton nous avait dit, bon, mais vous savez ce qui vous attend, là, c'est comme ça. Donc, à poil, les chaînes, ils nous mettent les chaînes. Certains matons me tenaient les pieds, les chaînes des pieds plutôt, les autres les chaînes des mains, et ils me tenaient à l'horizontale, alors que, et ils me passaient au milieu de cette haie de matraques, de gourdins, de crosses de fusil. Au bout de cette haie, là, eh bien, j'ai eu quatre côtes cassées, le muscle pectoral arraché, lésion rénale, je pissais du sang, et 90 jours de cachot, bien sûr. Donc ça a été la plus douloureuse. Ça n'a pas été un matraquage, ça a été un massacre. Un massacre. D'autant que ça s'est passé devant 600 détenus. Tous les détenus étaient aux fenêtres et hurlaient leur rage et leur haine. Qu'est-ce que ça a produit? Ça a produit ces événements de 1971 qui ont vu deux détenus, Dufay et Bontemps, prendre en otage un gardien et une infirmière et les égorger alors que les forces de police donnaient l'assaut. Parce que eux exigeaient, ils avaient pris en otage ce gardien et cette infirmière, et exigeaient une voiture pour leur fuite, etc. Et la réponse a été l'assaut. Et eux aurait pu lever les bras, mais il y avait une telle haine à Clairvaux qui était palpable.
À Clairvaux, Claude Buffet et Roger Bontemps ont mis leur menace à exécution. Ils ont assassiné d'une manière horrible les deux otages qu'ils détenaient. Que s'est-il passé cette nuit? Michel Polacco était devant la prison de Clairvaux.
La nuit a été très longue. À 4h moins 3 minutes, ça a été l'explosion, violente déflagration, accompagnée d'un éclair illuminant le ciel de la prison. Ensuite, le directeur des prisons, M. Lecorneau, explique ce qui s'est passé et pourquoi il a donné l'ordre d'attaquer.
Il n'est pas possible d'accepter les conditions de mutins qui se saisissent d'otages pour recouvrer la liberté.
Monsieur le directeur, vous avez pensé qu'il y avait moins de risques à laisser les prisonniers dans leurs cellules avec leurs otages que de leur donner des armes et une voiture?
Ah, sûrement, parce que pour me souvenir des conditions dans lesquelles s'est terminée l'action d'Aix-en-Provence, c'était extrêmement grave. On ne peut pas leur donner des armes.
C'était un comportement haineux, un comportement meurtrier, produit, induit aussi par notre tentative d'évasion qui a été réprimée de la façon la plus sordide qui soit. Ça là, ça a été la plus douloureuse. Écoute-moi mon ami, aimes-tu la liberté? Voudrais-tu t'enfuir d'ici? Aimerais-tu t'évader? Veux-tu revivre à la vie? Marcher sans chaîne à tes pieds? Oh, réponds-moi mon ami, aimerais-tu t'évader?
La plus belle évasion, c'est laquelle?
C'est tellement fort. Ça a été ces 25 ans de lutte, ma plus belle évasion. Ces 25 ans de lutte, ces 25 ans de vie,
Certains m'ont dit à vouloir me plaindre, je ne me plaignais pas parce qu'il y en a quelqu'un qui doit plaindre l'autre, bon, je ne fais pas le dessin, hein. Donc ne me plaignez pas. J'ai fait 25 ans de prison, je le revendique. En ai-je une fierté ? Pas du tout. Pas du tout. Moi, ça s'inscrit dans un process de lutte, de révolution. De révolution. Et je crois que la plus belle des belles, c'est celle-là. Ils ne m'ont pas écrasé. Ils ne m'ont pas tué. Ils ne m'ont pas rendu ce qu'ils auraient souhaité que je devienne. J'ai été libre pendant 25 ans. J'ai surtout mis en branle des tentatives d'évasion, qui chaque fois étaient une évasion de ma condition de détenu, de ma condition de tolard, de ma condition de prisonnier. Je n'étais ni un tolard, ni un prisonnier, ni un détenu. J'étais un homme libre à chaque tentative. Donc chaque tentative a réussi.
Je sais comment scier tous ces barreaux qui sont là en guise de rideau. Je sais comment faire sauter les verrous entre la liberté et nous. Je sais comment faire tomber en poussière ce mur énorme d'énormes pierres. Je sais comment sortir de ce cachot fermé comme l'est un tombeau. Je sais comment revoir des fleurs sous un ciel bleu. Je sais comment avoir le cœur libre et heureux. Tu ne dis rien, mon ami, mais tu as au fond des yeux.
Il a dû la fredonner, le père Boer, en prison. Il a eu le temps. Il a eu le temps de la fredonner. Il a eu le temps de l'apprendre, cette chanson. Ce qui est extraordinaire dans son cas, c'est un insoumis, un cas d'insoumission totale, mais c'est la responsabilité. C'est-à-dire que tout au long de son parcours, Charlie Boer a assumé, il a été responsable de tout, et aujourd'hui, eh bien, il ne se renie pas. On est à Marseille et au bistrot près de la plage. Et qu'est-ce qu'on fait à Marseille au bistrot près de la plage? On regarde la mer.
On tape une petite tartine. C'est la tapenade, olive et oignon. C'est bon.
On est dans un café, en fait, qui donne sur la plage à Marseille.
Oui, une brasserie. Voilà, ça se répand sur la plage. Et à proximité, à quelques mètres, il y a la mer. Et c'est beau. Quelle chance. J'aime la mer et justement ces horizons, là, lointains, très lointains. Et lorsque le regard se percute sur dans 9 mètres carrés et donc dans 4 mètres de distance, il faut avoir une imagination assez forte pour voir quand même l'horizon de ses idées qui dépasse les murs. C'est pourquoi se vouloir revendiquant, se vouloir désirant, bousculer les horizons, même lorsqu'ils sont bloqués par le béton, on détruit ces bétons.
Bousculer les horizons. Évidemment, c'est des formules qui ont l'air un peu incongrues aujourd'hui. Si on s'en tient et si on se limite à la rumeur médiatique dominante, mais on sait que cette rumeur de médiatique dominante ne reflète pas ce qui se passe dans un pays comme le nôtre et dans les têtes et dans les cœurs des habitants de ce pays qui est le nôtre. Aussi, il se peut que Charlie Boer, sa vie, son parcours, ses mots ne tombent peut-être pas tout à fait dans l'oreille des sourds que vous êtes supposés être. À son histoire, bien sûr, il y a des raisons et il y a des sources. Il y a un père, et il y a, comme pour beaucoup d'hommes de sa génération, on avait vu ça aussi avec ceux de Lotta Continua, par exemple, en Italie, il y a un père résistant et un père engagé. Et c'est évidemment là que l'histoire commence.
Il y a eu, par le fait de l'engagement du père, il y a eu une instruction par le père de cet engagement. Le père qui, par exemple, dans les années troubles de 39-45, s'est engagé dans la résistance. S'est engagé dans la résistance alors que il avait 4 enfants en bas âge. Il y avait eu à Marseille les grandes rafles. Et de ce fait, nous étions dans la campagne varoise, dans une cabane de jardin. Une petite pièce où il y avait quelques trucs, il n'y a pas d'électricité, pas d'eau bien sûr. Et je signale ça comme un fait, non pas d'histoire, un fait événementiel pour signaler la précarité dans laquelle nous vivions. On n'avait rien à bouffer, voilà. Ma mère faisait des frites, une fois elle a fait des frites avec de l'huile de voiture. On a failli crever, quoi, bien évidemment. L'essentiel de notre pitance, c'était le père qui a passé les lignes ennemies et réquisitionné de droite comme de gauche dans la campagne de la bouffe qu'il nous portait, quoi. Donc, engagement du père, un engagement forcené, très radical, rigoriste. À faire que, à la libération, dans le village à proximité de l'endroit où nous habitions, étant donné qu'il était responsable du groupe constitué en maquis, nous avait arrêté dans le village des collabos désignés. Donc, les collabos étaient arrêtés, mon père, sur le au balcon de la mairie, les montrait à la foule rassemblée sur la place de la mairie et demandait à l'avis du peuple, pétri de communisme, le paternel. Et le type, bon, mais bien évidemment, je dirais à chaque fois, était exécuté derrière la mairie. Voilà. Donc la radicalité du paternel, c'était aussi ça. Les modes terroristes, disaient les adversaires, et en l'occurrence les adversaires qui, bon, ben, étaient nazis. Et puis, l'histoire a fait que ces terroristes sont devenus des résistants. Donc mon père fut un résistant, et je crois qu'il convient de signaler avec force un résistant communiste. La force m'oblige à signaler quand même un communiste stalinien. Voilà, pour être honnête avec l'histoire. Aujourd'hui, j'en parle avec la critique dans la voix et quelques, non pas quelques émotions, mais quelques ténacité à dénoncer ça. La domination absolue, le stalinisme, enfin, quelques processus fascisants.
Florence, 1962, vous êtes arrêté.
Il faut remonter, bien évidemment, parce que l'arrestation, c'est non pas la concluante de nos actions, mais ça a été un des incidents. Pour que cet incident se produise, il a fallu qu'il y ait des actions, pardon. Et ces actions, c'était la lutte armée. Donc j'étais soldat, d'une cause non pas aléatoire ou perdue d'avance, comme on dit la littérature, ces causes perdues, etc. Donc pas du tout, pas du tout. Nous étions instruits, pétris, non pas de certitude, au grand jamais, mais de convictions fortes, profondes, qui nous faisaient fonctionner dans un vouloir à participer à l'évolution des masses, comme on disait à l'époque. Et cette participation, c'était pour nous au Parti communiste que nous la trouvions. De toute façon, il n'y avait guère d'autres alternatives. Dans les quartiers nord de Marseille, il n'y a pas de patronage, par exemple. Ou du moins, je n'en ai jamais entendu causer. Il y avait une église, mais je ne sais même pas s'il y avait un patronage. Tiens. Nous, le patronage, c'était les jeunesses communistes. Donc, avec une formation très, très, je dirais presque militarisée. Non pas avec les armes, mais militarisée avec l'arme de la conviction. Et rupture de banc après le vote par Guy Mollet et le parti des crédits de guerre pour l'Algérie. L'Algérie française. Crédits de guerre pour la France coloniale. Et donc nous sommes en rupture de banc, pas tout de suite, parce que nos convictions n'étaient pas suffisantes pour instruire une réflexion radicale de critique. Il a fallu 2 ans pour qu'arrive à maturité cette rupture, cette critique de l'appareil, communiste en l'occurrence, qui participait avec les forces de droite à la guerre coloniale. Rupture de banc et donc marginalisation. Et dès lors, criminalisation. Ce qui est différent et qui mène à des actions révolutionnaires. Eh bien, ce sont des criminels, bien sûr. Celui qui a raison, c'est l'appareil.
considère que c'est pas si mal que ça, d'aller jusqu'au bout. Et c'est ce qu'il faut dans la vie. J'aime pas les gens, justement, qui reculent. Trop de gens reculent. Et tu sais, simplement de voir la détention en France, dans les quartiers de haute sécurité, quand j'ai vu réellement que on crée ça non pour emprisonner l'homme, mais pour le détruire totalement, pour en faire un esclave de la pénitentiaire, tu vois, une serviette, quoi, un torchon, il fallait que l'homme s'abaisse au maximum devant ses messieurs. Au moins, je suis mort les armes à la main. Même si peut-être, et ça je n'en sais rien, je n'ai pas eu le temps de m'en servir. Parce que même si les policiers m'ont tué, avant que j'aie le temps de mettre la main sur mon revolver, il faut te dire une chose. Si j'avais eu le temps de mettre la main dessus, je m'en serais servi. Peut-être que j'ai mis la main dessus et que je m'en suis servi. Puisque cette cassette est prémonitoire, je ne peux pas quand même envisager ce qui m'est arrivé ou ce qui m'arrivera. La seule chose que je sais, c'est que si tu écoutes cette cassette, c'est que je suis dans une cellule d'où on ne s'évade pas.
La voix de Jacques Mesrine, qui avait mis en scène véritablement sa fin sur une cassette mixée avec des musiques adressées à sa compagne. C'est évidemment un message et un testament tout à fait étonnant à l'époque où Jacques Mesrine a été abattu. Cette cassette a beaucoup étonné, beaucoup été diffusée, et quelques instants après que Jacques Mesrine ait été abattu, un certain Charlie Boer était arrêté à la gare Saint-Lazare.
Dans les années, fin des années 50, début 60, si nous étions rencontrés, Mesrine et moi, il est absolument certain que nous aurions été face à face. Lui était parachutiste, et les parachutistes en Algérie ont fait vraiment des besognes dans tout ce qu'il y a de plus sordide, hein. Des besognes qu'on pourrait qualifier de militaro-policières. Donc torture, etc. Mesrine a participé à ça. Très activement. Comment ai-je pu rencontrer et communiquer avec un individu comme ça? Eh bien, c'était 20 ans auparavant. Entre-temps, il avait connu la prison, il avait connu pendant 5 ans les quartiers de haute sécurité. Il était animé, donc, d'un esprit revanchard. Nous ne nous gourons pas, Mesrine n'était pas un politique. Loin s'en faut. Mais enfin, il savait faire la critique de ce qu'il avait été utilisé durant la guerre coloniale. La communication a été possible. D'autant que nos intérêts ne divergent pas. Nos intérêts étaient pas seulement l'abolition des quartiers de haute sécurité, mais leur destruction par explosif. Détruire un quartier de haute sécurité, libérer ceux qui s'y trouvaient, leur fournir armes, argent, papier et à charge, en sorte le contrat moral bien sûr, à charge de reproduire la même chose par groupe de trois sur notre quartier de haute sécurité. Je trouve ça superbe. Ça a manqué son effet parce que, bon, peu de temps après, Mesrine est exécuté et je suis arrêté. Et remis en quartier d'haute sécurité. Badabim, mais entre-temps, 81, la rose était dans tous ses éclats. Et donc, ils ont fermé les QHS un an plus tard, soit dit en passant, ils se sont donné le temps d'attendre. Hein. Et je sors du quartier d'haute sécurité, je suis placé en SHS, au rez-de-chaussée à Fresnes, super haute surveillance.
Voilà un parcours, évidemment. Il faut relire ou lire le bouquin de Charlie Boer, Fracture d'une vie, où il raconte toute cette vie, évidemment, incroyablement dense. Aujourd'hui, on est en 2005, on l'a dit, il le dit, il ne se renie pas, il assume tout, mais enfin, si c'était à refaire.
La lutte armée était, je dirais, non pas inévitable, mais était non pas de mode, hein, ça, c'est les cons de service qui définissent ces termes, hein, non. Mais disons que c'était une pratique nécessaire. Ça a été une pratique nécessaire. Foin de quelques guévarismes, c'est pas ça dont il s'agit, hein. Mais Je dirais, si le comtesse se présentait de la même façon, un rapport aussi ferme, aussi dur, aussi radical, dans l'affrontement avec les forces du pouvoir, je crois que je ferais le même choix de me battre.
Et si le contexte était celui-ci, celui d'aujourd'hui ?
Eh bien, je me battrais avec des idées, avec les mêmes armes, mais conjuguées d'analyse, de réflexion et d'action. Hein, et d'action, de pratique de ces idées. Ce que je fais aujourd'hui.
Aujourd'hui, vous le faites en tant que sociologue, vous rencontrez des étudiants. Mais si Charlie Bauer avait 20 ans aujourd'hui, il ferait quoi ?
Alors là, c'est un si qui me cisaille totalement parce que je ne sais pas. Je n'ai pas 20 ans, mais je suis le marathonien qui court. Il y a toujours chez moi une remise en cause profonde, hein, une critique.
Comme par exemple quand vous avez joué au théâtre sur les goulags, la critique du stalinisme.
Par exemple, j'utilise donc ce moyen, par exemple, à savoir, quel tremplin, quel mode d'expression. Aujourd'hui, la révolution, on l'associe bien volontiers à la crème qui promet la juvénilité à perpète. Pour moi, la révolution, c'est autre chose.
Et aujourd'hui, la révolution, c'est laquelle ? On la fait comment ? Avec quelles armes ?
En participant sur le terrain, c'est pourquoi je parle, me concernant, de sociologie de proximité. Aujourd'hui, il serait totalement inefficace de me balader avec le Kalachnikov en bandoulière. Non. Alors, les mots, il faut leur donner leur vraie valeur. Le véhicule de la pensée, de cette pensée force, qui est une pensée révolutionnaire. C'est ce qu'il faut, et c'est ce qui fait évoluer le monde. J'y crois fondamentalement. Et ces armes sont aussi efficaces que le rafale de Kalachnikov. Il y a 11 millions de précaires en France. Il y a 2,5 millions de gens qui vivent avec 50 balles par jour. Moins de 10 euros. Je considère toutes ces données et je dis, il faut se battre. Le couteau entre les dents, les gants de boxe, lutteurs de foire, non, pas du tout. De même que le gargarisme intellocrate qui consiste à donner des conseils ou à réunir le plus de monde autour de soi et prôner le grand œcuménisme des forces vives de... Non, passez-moi ça, non. Non. Se donner les moyens à faire que, par la réappropriation de l'oralité, les gens se mettent à penser, non pas sur leurs propres conditions. Et donc, un enfermement individualiste à la con. Nous ne serons pas forts parce que nous sommes les plus nombreux. Nous serons forts parce que chacun est un nombre en soi. Chacun est un groupe en soi.
Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. C'est un très bref poème de René Char qui va très bien à Charlie Bauer, même si René Char, ça fait un peu pompeux, ça fait un peu littéraire. Mais si on réécoute une deuxième fois, c'est absolument lui. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Même si aujourd'hui, ils s'effacent devant ceux qui viennent et les offensés, les damnés qui avaient été l'image cardinale de son père. Il se pourrait qu'un jour, la boucle se boucle ainsi. En tout cas, lisez et relisez le bouquin, son livre, Fracture d'une vie, c'est aux éditions Agon. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission La Bâche si j'y suis. C'était un reportage de Pascal Pascariello et son premier reportage. Technique aujourd'hui Anna Arnstam et Jean-Philippe Jeanne. L'équipe de La Bâche si j'y suis, c'est Antoine Chao, Yann Chouquet et Christophe Imbert. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 18h pour La Bâche si j'y suis. Dans 1 minute et 3 secondes de réclame, vous retrouvez Frédéric Bonneau et Charivari. Salut.